Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale pour les célébrations en Israël de Yom HaZikaron et Yom HaSmaout. Et pour faire un petit focus sur un des acteurs majeurs, principaux en Israël, nous recevons Robert Zbili, président du KKL France ainsi que président de la Fédération sioniste, qui va rester un petit peu avec nous pour... On va parler ensemble, par exemple, du KKL et faire un rapide historique. Robert Zbili, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Judaïque à Strasbourg. Alors, c'est vrai que quand on parle KKL, on pense à planter des arbres, mais ça n'est pas que ça. Vous pouvez nous faire un rapide historique?
Alors, le KKL a plus de 120 ans maintenant. Le KKL a été créé au 5e congrès sioniste. Le but initial du KKL, c'était de racheter les terres. Mmh. Donc le KKL a racheté des terres où devait être créé l'État d'Israël. Sans savoir les limites précises, donc le KKL possède des terres en Israël et des terres en dehors d'Israël. Il possède des terres en Jordanie, il possède des terres en Syrie, des terres au Liban, puisqu'on n'avait pas les limites précises de l'État. Actuellement, le KKL est propriétaire d'un peu plus de 30% de la surface d'Israël.
D'accord.
Et ces terres sont particulières parce qu'elles sont dans les zones les plus habitées, c'est-à-dire dans tout le Gush Dan. Voilà, ça c'est la première partie du travail du KKL. En 48, à la création de l'État, le KKL a fait de cet État ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire qu'il a transformé un désert et des marécages en terre cultivable, en terre viable. Et le résultat, vous le voyez tous les jours, à chaque fois que vous allez en Israël, il n'y a pas de problème. Et tout ça, c'est le travail du KKL. Ensuite, le KKL a planté des arbres, bien sûr, ça c'est aussi sa vocation. Il faut savoir qu'une seule forêt en Israël est une forêt naturelle, c'est la forêt qui est à côté de Haïfa. Toutes les autres forêts sont des forêts créées par le KKL. Voilà pour l'historique du KKL, ça c'est l'historique, maintenant il y a le présent.
Mm-hmm.
Le présent du KKL, le KKL est la seule organisation écologiste reconnue par l'ONU.
D'accord.
Est engagée dans l'environnemental global, dans la lutte contre la désertification, dans la lutte contre l'eau, puisque si vous savez que l'État d'Israël, au départ, le principal problème, c'était un problème d'eau.
Mm-hmm.
Et que ce problème a été résolu en grande partie grâce aux travaux de la recherche et développement du KKL. Il y a actuellement, vous avez entendu récemment qu'en France, on se battait sur un bassin d'eau.
Oui.
Qui serait créé pour... En Israël, il y en a 200 bassins d'eau.
Vous avez 200 bassins d'eau, oui.
200 bassins d'eau créés par le KKL. Il y a deux types de récupération d'eau. Il y a l'eau qui est récupérée de l'eau de puits traditionnelle qui remplissent les bassins et qui font que.
Mm-hmm.
Et il y a l'eau qu'on va chercher plus profondément et qu'on fait revenir à la surface.
D'accord.
Ces eaux sont des eaux qui servent principalement à l'agriculture, qui sont assainies... Par le filtrage par la terre, mais également au niveau des bassins d'eau dans la vallée de la Arava par des carpes,
mm-hmm.
en particulier, puisqu'on s'est aperçu que la carpe assainissait l'eau. Donc dans ces bassins, on met des carpes et puis on regarde ce que ça donne et on récupère l'eau, ce qui permet de faire l'agriculture en Israël sans problème.
D'accord.
Et à côté de cette récupération de bassins d'eau, il y a deux grandes usines de dessalement de mm-hmm. la mer. Qui font que Israël est bénéficiaire et en eau potable.
Vous êtes bénéficiaire en eau potable, tout à fait. Oui.
Israël est bénéficiaire en eau potable et dans le règlement dans le traité de paix avec la Jordanie,
mm-hmm.
puisqu'on avait une ressource commune qui était le Jourdain.
Oui.
Dans ce traité, il est prévu qu'Israël livre un certain nombre, une certaine quantité d'eau tous les ans à la Jordanie.
Oui.
Et actuellement, on doit livrer 2 à 3 fois ce qui est prévu dans le contrat de paix. Voilà, donc Israël est excédentaire dans l'eau, et c'est très important dans cette région où l'eau, c'est plus important que le pétrole.
Oui.
Et voilà, donc le travail du KKL. Maintenant, le KKL travaille actuellement, je dis, sur tous les problèmes environnementaux et les problèmes d'énergie.
Oui.
L'énergie solaire, tout ce type d'énergie est mis en place, et dans l'agriculture... optimiser. Et toutes ces découvertes, tout ce travail des labos de recherche et développement du KKL ne servent pas qu'au KKL en Israël, mais servent également pour l'image d'Israël, puisqu'on transmet des connaissances à d'autres pays qui ont le même problème, notamment aux pays d'Afrique, dans le Sahel, etc.
Mmh.
On leur permet de pouvoir produire de l'électricité, produire de l'eau, etc. Voilà donc le travail du CACAL. Et le CACAL est une structure paragouvernementale totalement indépendante.
Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment vous êtes indépendant, comment ça s'organise avec le gouvernement?
Vous voulez qu'on parle de la Fédération. La Fédération des organisations sionistes de France. Il y a un congrès. Avant la création de l'État d'Israël, le gouvernement d'État d'Israël, c'était le Congrès juif mondial. Mm-hmm. Enfin, pas le Congrès juif mondial, le Congrès sioniste mondial.
Oui, Congrès sioniste mondial.
Voilà. Mais le Congrès sioniste mondial continue à exister. Il se réunit tous les 4 ou 5 ans et il est composé à 50% de juifs de la diaspora, 50% de la représentation de la Knesset, les 6 mois précédents.
D'accord.
À partir de ce moment-là, ce congrès sioniste permet la nomination de différentes structures. C'est-à-dire qu'elle nomme les responsables de l'organisation sioniste mondiale. L'organisation sioniste mondiale, c'est ce qui a succédé à le dernier président de l'organisation sioniste mondiale avant la création de l'État, c'était Ben Gourion. Le premier président de l'organisation sioniste mondiale, c'était Herzl. Donc, c'est les successeurs de Herzl et Ben Gourion qui sont élus tous les 4 ans ou tous les 5 ans, en fonction du temps,
d'accord,
à la tête de l'OSM. Il me désigne également le président de l'agence juive. Le président du Keren Yesod est le président du CACAL.
D'accord.
Donc ces nominations sont faites tous les 5 ans par le congrès sioniste mondial. Et il n'y a pas que les postes de direction, il y a également tous les postes qui vont avec. Il y a le département de l'éducation, il y a le département jeunesse, il y a le département des activités sionistes, il y a plein de départements qui sont nommés en même temps, enfin qui sont désignés en même temps, qui sont élus tous les 4 ans à ce congrès. Voilà comment fonctionne le mouvement sioniste dans le monde.
D'accord.
C'est l'importance de la Fédération sioniste. La Fédération sioniste, c'est les représentants c'est ceux qui vont au congrès sioniste.
D'accord, ok.
La France possède 23 mandats au congrès sioniste mondial, ce qui est beaucoup. Hein. Mm-hmm. On est la plus grosse délégation après les États-Unis. Ce qui est quand même très important, mais les États-Unis représentent près de 150 mandats et l'État d'Israël représente 50% du congrès sioniste. Voilà comment fonctionne le mouvement sioniste dans le monde.
D'accord. Et donc, alors, on a le CACAL France, dont vous êtes président. Vous disiez, la France a beaucoup, beaucoup de travail. Vous-même, concrètement, par rapport à ce qui se passe en Israël, comment la France intervient? À quel niveau, à peu près? Que ce soit au niveau des collectes, au niveau de beaucoup de choses?
Au niveau de la collecte des legs testaments, la France est le premier pays, le premier CACAL du monde.
D'accord.
Après les États-Unis qui sont totalement en dehors puisqu'ils ont quitté le système global, ils travaillent à leur compte. Mmh. Mais dans le système global, puisque le CACAL est une structure mixte, c'est un peu comme l'ambassade. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un délégué général,
oui,
et il y a un président du CACAL. Et aucune action n'est faite sans la signature des deux. C'est-à-dire que si je prends une décision... je la prends en commun avec le CACAL de Jérusalem.
D'accord.
Mais le CACAL de Jérusalem ne peut pas prendre une décision sans moi.
D'accord.
En ce qui concerne l'argent de la France.
Oui.
Voilà le principe. Tous les sous récoltés par le CACAL de France sont transmis automatiquement, au centime près, mm-hmm, au CACAL à Jérusalem.
D'accord.
C'est-à-dire que quand vous achetez un arbre à 10 euros, les 10 euros sont en Israël et l'arbre est planté en Israël. Par contre, le fonctionnement du CACAL de France est fait par le CACAL de Jérusalem. J'ai une subvention tous les ans que je négocie.
D'accord.
Et qui correspond à mon budget de fonctionnement.
Voilà, le budget de fonctionnement. D'accord. Okay.
Les locaux du CACAL de France à Paris, qui sont de super locaux, appartiennent au CACAL de Jérusalem.
D'accord.
Je n'en suis que le locataire.
Vous n'en êtes que le locataire, d'accord.
Voilà. Mais étant également impliqué dans le mouvement sioniste, j'ai mon mot à dire sur la nomination des différentes structures du CACAL en Israël. Voilà.
D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, c'est un historique, même un point ultra précis.
Donc vous avez exactement le fonctionnement du CACAL, je vous dis,
ouais,
et le CACAL de France, je vous dis, est le plus gros CACAL du monde,
ouais,
par sa collecte, mais également par ses réalisations en Israël. C'est-à-dire que tous les ans, on fait un certain nombre de choses qui sont importantes pour l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on fait des bassins d'eau, on plante des arbres dans les forêts, de plus en plus de marbre. D'ailleurs, on a trouvé de la place pour faire des forêts, puisque ce pays est quand même pas très grand.
Oui.
Et on a tout ce qui va avec, c'est-à-dire les bosquets, les stèles, les jardins d'enfants. Mmh. Maintenant, des structures qui sont des structures plus sociales, c'est-à-dire qu'on fait des maisons, ce qu'on appelle les maisons d'excellence, c'est-à-dire que dans les zones en développement, on installe des maisons où les enfants peuvent venir après l'école pour avoir un complément de scolarité ou faire du sport, jouer aux échecs, faire de l'ordinateur. Tout ça, c'est fait en sorte. Il y a aussi des immeubles construits pour les soldats. Allô ?
Oui.
Oui, pour les soldats isolés.
Oui, oui.
Voilà le. Voilà.
Donc en fait, on peut dire qu'il y a vraiment il y a un pont quand l'écologie, le développement durable rejoint le social finalement. Vous
exactement,
avez réussi à faire un
exactement.
Pont.
Et c'est fait de manière parallèle, c'est-à-dire tout ce qu'on construit en Israël est fait dans le terme de l'écologie. Mmh. Voilà. Mais c'est aussi politique dans le sens où le fait d'assister aux villes en développement, etc. Ça permet de changer la nature de l'État d'Israël, la nature sociale de l'État d'Israël et la nature politique de l'État d'Israël.
Et quand on sait que la bataille de l'eau est la bataille de demain, on peut dire que pour l'instant...
le 11 mai, dans pas longtemps, je fais venir en France un spécialiste de l'eau qui va tourner à travers la France et expliquer comment nous, on a résolu le problème de l'eau et comment on peut aider les autres à résoudre le problème de l'eau.
D'accord, donc avec effectivement des capacités transférables.
Voilà pour le KKL. Le KKL, c'est une structure extraordinaire et qui évolue de jour en jour.
Bah écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors, pour faire là, par rapport, il y a le KKL et puis il y a l'actualité. Il y a l'actualité en Israël. Nous célébrons Yom HaZikaron, donc le recueillement, le souvenir, la douleur. Et puis après, Yom HaSmaout, donc la joie, les festivités. Le KKL, par rapport à ces célébrations, comment ça se passe ?
D'abord, le KKL est partout dans l'organisation des journées de... D'ailleurs, Yom HaZikaron, malheureusement, le KKL est présent partout, puisque c'est lui qui fournit les fleurs à mettre sur les tombes. Mm-hmm. Mais Yom HaZikaron, c'est une journée très spéciale en Israël, très spéciale. Pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, je peux vous dire que c'est peut-être la journée la plus émouvante de l'État d'Israël.
Oui.
C'est une journée où tout s'arrête, il n'y a pas un bistrot ouvert. Je me souviens j'avais 20 ans à l'époque, ou 22 ans, je ne me souviens pas exactement. J'étais en Israël et pour la première fois, Yom HaZikaron, j'étais à l'hôtel et on m'a dit, pas de piscine aujourd'hui.
D'accord.
Et la vie s'arrête, les gens travaillent, mais la vie s'arrête. Il y a la sirène, et quand vous voyez la sirène sonner, quand la sirène a sonné, j'étais dans une administration, c'était un open space, et à ce moment-là, je parlais avec quelqu'un, puis la sirène a sonné, tout le monde s'est levé, et tout le monde a pleuré. Et j'ai vu les gens pleurer, et c'était très émouvant, parce que chacun pensait à ses morts.
Oui.
Chacun pensait à un ami, à quelqu'un de sa famille qui était mort dans une guerre, qui était mort dans un attentat, qui était mort. Et c'était extrêmement poignant. Et c'était tout le pays qui était à l'unisson avec cette sirène qui est un son très particulier. Et voir ce pays s'arrêter, voir cette population toute une journée ne penser qu'à ça. Et j'ai pris l'habitude, moi, de faire la même chose. C'est-à-dire que depuis hier soir, je suis sur les réseaux sociaux à lire des histoires de gens qui sont morts pour que cet État existe, pour que cet État soit ce qu'il est actuellement. Et c'est une journée très, très, très particulière et très émouvante. Et il y a peu de peuples dans le monde qui sont capables de ce type de commémoration. Et ce qui est extraordinaire également, c'est que cette journée se finit. En 60 secondes, on passe... du deuil, de la tristesse à la joie. Et d'un coup, le pays se réveille, et d'un coup, les feux d'artifice apparaissent, et d'un coup, la musique apparaît, et c'est extraordinaire. Et c'est très juif comme manière de raisonner. C'est-à-dire que c'est dans le souvenir qu'on apprécie la joie. Voilà pour moi ce qu'est Yom HaZikaron et Yom HaSmaout. Et c'est propre à un peuple et propre. Alors je sais qu'actuellement, il y a des problèmes en Israël politique, etc. Mais je crois que c'est des problèmes de croissance plus que des problèmes d'autre chose. C'est un peuple qui est profondément uni et de toute façon, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Quand on dit plus jamais ça, ça veut dire plus jamais ça.
Plus jamais
ça.
Voilà,
ouais. Ça veut dire qu'Israël existe. Il n'y aura plus jamais ça parce qu'Israël existe. Voilà ce que je voulais faire passer comme message et ce que je pense réellement aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est une magnifique conclusion, effectivement. Plus jamais ça. Robert Sbili, je rappelle, vous êtes donc président du KKL France et de la Fédération sioniste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir amené à la fois un éclairage sur la situation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de partager ce moment avec vous.
Mais c'est nous. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.